Après, il faut citer aussi ce qu'on appelle les obligations, les piliers de la prière, qui sont au nombre de 16 selon Ibn Hachir. Donc, tout d'abord, l'intention. L'intention est la base de tout. Le takbir initial, dit de sacralité, se tenir debout pour ce premier takbir. Réciter la Fatiha, ainsi que se tenir debout pour cette récitation. S'incliner, donc rukou, se relever de l'inclinaison. La prosternation avec humilité et un minimum de présence, donc sujoud. Se relever de la prosternation. Effectuer le salam final. S'asseoir pour ce salam. Et s'en tenir à l'ordre exigé pour les parties fondamentales ou wajib. Se tenir droit en étant debout et assis. Donc dans la position debout et dans la position assise, il faut se tenir droit. S'arrêter dans chaque position pendant un moment en tant que devoir, un petit moment. Celui donc qui est dirigé par un imam devra prononcer le takbir initial et le salam après son imam. Donc il ne doit pas le devancer et il ne doit pas le faire avant lui et il ne doit pas le faire en même temps que lui. Donc il faut qu'il le fasse après son imam. Il faut qu'il le suive donc au moins dans le takbir initial et dans le salam final. Donc il fait après, il fait ça après son imam. Donc l'imam fait le takbir initial, on le fait après. L'imam fait le salam final et on le fait après lui. Voilà. Son intention devra être celle de suivre l'imam depuis le début. L'imam devra avoir une intention de diriger exclusivement pour la prière de la crainte, contre la peur, ou en cas de combinaison, de regroupement de prières. Exemple, regrouper la prière de Dhuhr avec Asr ou de Maghrib avec Isha pour les conditions qu'on va citer dans le chapitre du regroupement du Jam'. Aussi pour la prière du vendredi, l'imam doit avoir une intention. Aussi s'il remplace un imam qui a dû partir en cours de prière, ce qu'on appelle l'istikhlaf. Donc c'est ce qui est donc obligation de la prière, qui sont en nombre, je rappelle, de 16. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle les sunan de la salat. Donc, on va commencer d'abord par citer les vers de Ibn Hachir à ce niveau-là. سننه الصورة بعد الواقية مع القيام أولا والثانية جهر وسر بمحل لهما تكبيره إلا الذي تقدم كل تشهد جلوس أول ثاني لا من السلام يحصل وسامع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده الفذ والإمام هذا أكد والباقي كالمندوب في الحكم بدا إقامة سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين إنصات مقتد بجهر ثم رد على الإمام واليسار وأحد به وزائد سكون للحضور سترات غير مقتد خف المرور جهر السلام كلم التشهد وأن يصلي على محمد سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغيرا طلبت وقصر من سافر أربع برود ظهرا عيشا عصرا إلى حين يعود مما وارى السكن إليه إن قديم مقيم أربعة أيام يتم. Donc ici, il nous cite les sunan de la prière qui sont cités comme suit. Donc d'abord réciter la sourate après la Fatiha. Donc il faut savoir que dans notre école malikite, on distingue la sunna muakkada, donc sunna muakkada, la sunna appuyée, la sunna légère et la fadila. Donc les sunnan appuyées sont au nombre de 8, comme on va le voir. Et c'est normalement ces sunnan qui nous obligent à faire une prosternation réparatrice, donc sujoud sahw, si on l'a oublié. Sauf pour la tasmi'a, sami'a Allah al-hamida, et la takbira, Allahu Akbar, si on oublie ces deux-là. Par contre, dans l'oubli de trois sunnahs légères ou d'une sunna appuyée, donc parmi, imaginons l'oubli de la surah, par exemple, nous oblige effectivement à faire les prosternations réparatrices. Donc on a dit les 8 sunnahs mu'akkada qu'on va citer. Donc les sunnahs sont, réciter une surah, un verset du Coran, au minimum suffit, après la fatiha. Donc on a vu que la Fatiha est une obligation, est un pilier. Donc réciter la sourate après la Fatiha, donc même un verset suffira pour accomplir cette sunna. Et le fait de réciter une sourate. Réciter la sourate, donc en deuxième, c'est se tenir debout dans la première et deuxième unité de la prière rituelle. Réciter à voix haute ou à voix basse au moment approprié. Donc, il faut savoir que les prières du jour sont silencieuses et les prières de la nuit normalement sont à voix haute. Donc, concernant les deux premières rakas, par exemple la prière de Isha, les deux premières rakas se font à voix haute quant à la récitation de la Fatiha et la Sourate. Pareil pour la prière du Maghrib et la prière du Subh. Pour le Dhuhr et l'Asr, la récitation se fait à voix basse. Donc, réciter à voix haute ou à voix basse au moment approprié fait partie des sunnan mu'akkada, donc des sunnan appuyés. Les takbir, Allahu Akbar, sauf celui qui a été déjà mentionné, c'est-à-dire que le takbir initial est wajib et non pas sunnah. Chacune des salutations et témoignages, donc tashahhud. Se mettre en position assise pour le premier tashahhud. Se mettre en position assise pour le deuxième tashahhud, donc le temps où on doit rester assis pour le salam, quant à lui, est obligatoire, comme on a vu dans les obligations. Le sami Allahu liman hamida, qu'on prononce la personne qui prie en se relevant après l'inclinaison. Donc les gens qui prient derrière l'imam ne diront pas Sami Allah liman hamida, mais seulement Rabbana wa lakal hamd. Donc il y a cette exception, les gens qui prient derrière l'imam ne diront pas Sami Allah liman hamida, mais diront seulement Rabbana wa lakal hamd quand leur imam dira Sami Allah liman hamida. Par contre, pour celui qui prie seul, il dira toujours Sami Allah liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Ces sunnas sont pour la personne priant seule et pour l'imam aussi. Ces sunnas sont celles qui sont appuyées, donc recommandées. Le reste des sunnas sont traités comme des mandoubs, moins appuyés, donc on va les voir. Parmi ces sunnas moins appuyés, l'appel avant de commencer la prière, ce qu'on appelle iqama. Sa formule est la suivante, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna muhammad ar-rasulullah, hayya ala salati, hayya ala al-falahi, qad qamati salatu, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Donc, cette iqama est une sunna moins appuyée. Se prosterner avec la paume de la main en contact avec le plancher, tout comme les extrémités des pieds, les orteils et les genoux. Et pour celui qui suit un imam, le fait d'écouter la récitation à voix haute de son imam. Donc, on l'écoute. Quand il fait la récitation à voix haute, on l'écoute, on ne le fait pas avec lui. Parmi les sunna moins appuyées de la prière. Puis répondre également au salam de l'imam et à la personne priant à gauche si une telle personne est bien du côté gauche. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire, c'est juste un salam à droite, sauf si on a, si on prie derrière un imam et on a à notre gauche quelqu'un qui prie aussi. Donc là, on fait le salam à droite, qui est lui une farida, le salam à gauche, le salam en face et le salam à gauche. Parmi les sunnahs à pied, on cite aussi le fait d'excéder le temps d'arrêt minimum dans chaque position afin d'être plus présent avec Allah dans chaque acte de la prière. Aussi, le fait d'ériger un objet, donc sutra, pour prier dans sa direction quand on ne suit pas un imam, pour celui qui craint que quelqu'un ne passe devant lui. Dire à voix haute le premier salam, donc assalamu alaykum, donc premier salam à droite et à dire à voix haute, c'est parmi le fait de le dire à voix haute est une sunnah à pied. Pour le tashahhud, utiliser les termes de salutation relatés par Omar ibn al-Khattab, par exemple dans le Mu'tah, et que la personne qui prie demande la bénédiction d'Allah sur le prophète. Donc, salatu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Al-adhan, donc l'appel à la prière, est une sunnah pour un groupe qui vient faire une prière wajib en son temps et souhaite que d'autres s'y joignent également. Donc ça, c'est une sunnah pour les gens donc qui veulent qu'un autre groupe se joigne avec eux et donc en son temps. Pour la prière, on s'entend. Adam. Il parle aussi, enfin, de raccourcissement, la réduction à Doraka, de la prière, et sunna pour celui qui voyage 4 borod et plus, c'est-à-dire une distance estimée à un peu plus, plus ou moins, on va dire, 80 km. Il y en a qui disent moins, il y en a qui disent plus. En tout cas, c'est un voyage long. Un voyage long, un voyage licite. Qui se fait moins de 3 jours, parce que quand on dépasse les 3 jours, on ne réduit plus. Donc celui qui va rester dans un endroit 4 jours et plus, il va faire la prière normale. Par contre, celui qui va donc qui voyage un voyage long et qui va donc rester moins de 3 jours, 3 jours et moins, là, il fait la réduction. C'est une sunna. C'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le dhuhr, le Isha et le Asr, c'est-à-dire au lieu de faire 4 rak'at pour le Dhuhr ou 4 rak'at pour le Isha ou 4 rak'at pour le Asr, il va faire 2 rak'at pour le Dhuhr, 2 rak'at pour le Isha et 2 rak'at pour le Asr jusqu'à ce qu'il revienne à l'endroit où il avait commencé la réduction, c'est-à-dire après les dernières habitations de l'endroit qu'il a quitté. Il commence donc cette réduction. Il dit le HF depuis le moment où il dépasse les dernières constructions établies de son village de départ jusqu'au moment où il arrive de nouveau à cet endroit. La personne qui réside dans un endroit pendant 4 jours et plus doit accomplir la prière sans réduction. Donc on passe finalement au Mendoubet avant de résumer la façon la plus propre et la plus saine et la plus correcte selon notre rythme liquide de faire la prière. Donc on passe au Mendoub. مندوب تيامن مع السلام تمين من صلى عدا جهر الإمام وقول ربنا لك الحمد عدا من أما والقنوت في الصبح بدا ردا وتسبح السجود والركوع سدل يد تكبيره مع الشروع وبعد أن يقوم من وسطاه وعقده الثلاث من يمناه لدى التشهد وبسط ما خله تحريك سبابتها حين تله والبطن من فخذ رجال يبعدون ومرفقا من ركبة إذ يسجدون وصفة الجلوس تمكيل اليد من ركبتيه في الركوع وازدي نصبهما قراءة الماموم في سرية وضع اليدين فاقتفي لدى السجود حذو أذن وكاد رفع اليدين عند الإحرام خدا تطويله صبحا وظهرا صورتين توسط العشاء وقصر باقيين كالصورة الأخرى كذا الوسطى استحب سبق يد وضعا وفي الرفع الركب وكاره بسملة تعوذا في الفرد والسجود في الثوب كذا كورو عمامة وبعض كمه وحمل شيء فيه أو في فمه قراءة لدى السجود والركوع تفكر القلب بما ناف الخشوع وعابة والالتفات والدعاء أثناء قراءة كذا إن ركع شبيك أو فرقعة الأصابع تخصر تغمض عين تابع. Donc là, bien acheter si t'as la fois les mandoubats, choses qui sont récompensées, donc majorines, mais qui sont quand même moindres que les sunnas, moins importantes que les sunnans. Et puis après, il cite les makruhats, c'est-à-dire les choses détestables à ne pas faire de préférence dans la prière. Donc les choses détestables, mais qui ne rendent pas invalide la prière. Parce qu'on va avoir, savoir après quelles sont les choses qui invalident la prière. Donc pour lui, les mandoubs de la prière sont au nombre de 21. Le fait donc de faire à droite le salam qui clôture la prière, dire Amin à voix basse après la lecture de la Fatiha, sauf pour l'imam quand il lit la Fatiha à voix haute, ce sont les gens dirigés qui diront Amin. 3, donc dire après s'être redressé de l'inclinaison Ruku' et après avoir dit Sami Allahu liman hamidah, dire Rabbana lakal hamd, sauf pour l'imam, il ne dira pas Rabbana lakal hamd, mais seulement Sami Allahu liman hamidah. Le 4, donc réciter le Qunut, donc c'est des invocations spéciales après la sourate de la deuxième raka'a du subh et avant l'inclinaison de celle-ci. Donc avant l'inclinaison de celle-ci. Donc il s'agit de la deuxième raka'a du subh. Donc la deuxième raka'a du subh avant son inclinaison, avant le recours de la deuxième raka'a du subh, on fait ce qu'on appelle le qunut. Il se fait à voix silencieuse, il se fait silencieusement. 5, donc le tasbih pendant l'inclinaison, donc le fait de dire Subhana Rabbi al-Azim, et pendant la prosternation, pendant ce jour, dire Subhana Rabbi al-A'la. Al-Rida, donc le sixième, donc Al-Rida, le fait de mettre un habit beau et pudique qu'il met sur les épaules en plus de son habit. Le septième, donc le sedl, donc laisser les mains libres tendues vers le bas pendant la prière obligatoire. Pendant la prière surrogatoire, il est plutôt préférable de faire le qabd, c'est-à-dire de mettre une main sur une autre, sur la poitrine. Le huitième, dire Allahu Akbar en dehors de Takbirat Ihram. Donc les Allahu Akbar sont une sunna légère, donc une mendoubat, en accompagnant les actes de la prière, sauf quand on se lève de l'inclinaison. Quand on se lève de l'inclinaison, on ne fait pas de takbir, bien évidemment. Quand on se lève de la position assise après le teshahoud du milieu, il ne faut dire Allah Akbar qu'une fois complètement levé, normalement. Une fois complètement debout. Neuvième, pendant la position pour le teshahoud, fermer les doigts, sauf l'index et le pouce. Dixième, pendant la lecture du teshahoud, le fait de bouger l'index, de la main droite, bien sûr, tout en tendant le pouce sur l'index. Et en maintenant les mains posées sur les cuisses près des genoux. Donc, le fait de bouger donc cet index quand on fait le teshahoud. Ne pas joindre les pieds pendant la prière en position debout, et ne pas coller le ventre contre les cuisses, ni approcher les coudes de genoux dans la position de prosternation pour les hommes. Pour la femme, une position plus jointe est préférée. Pour la prosternation, elle doit rassembler ses membres en se recroquevillant. Ses cuisses doivent être proches du ventre et les bras proches du corps. Donc l'homme, il lui est même double de ne pas joindre les pieds pendant la prière en position debout et de ne pas coller son ventre contre ses cuisses, ni approcher ses coudes à ses genoux dans la position de prosternation. Et la femme, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire elle lui est conseillée une position plus jointe. Le douzième, donc s'asseoir de cette façon, en faisant porter le poids de son corps sur son pied gauche et en redressant son pied droit à sa droite avec les orteils en direction de la Qibla et mettre les mains sur les genoux. Le treizième et le quatorzième, donc mettre les mains sur les genoux en position d'inclinaison avec les genoux droits sans les courber. Le quinzième, le fait que celui qui est dirigé par l'imam lise la Fatiha et la Sourah dans la prière qui ne se fait pas à voix haute, dans celle qui se fait à voix haute. Il faut plutôt qu'il écoute attentivement son imam. Le 16e, dans la position de prosternation, les mains seront à hauteur des oreilles, près des oreilles, avec les doigts joints et en direction de la Qibla. Levez les mains à hauteur des oreilles dans la Takbirat al-Ihram pour commencer la prière au niveau, ou au niveau des épaules. Donc, le choix, ou on lève au niveau à hauteur des oreilles, ou on le fait donc au niveau des épaules. Le 18e, le fait de lire les sourates longues dans la prière du Sobh, des sourates longues dans la prière du Sobh, et dans les deux premières rak'at de la prière de Dhuhr. Et lire des sourates moyennement longues dans les deux premières rak'at de la prière de Isha, et lire des petites sourates au verset dans les deux premières rak'at de la prière de Asr et de Maghrib. C'est-à-dire en gros, le Maghrib et Asr sont plus courtes que les autres. Le 19e, donc, le fait que la sourate ou les versets lus pendant la première rak'at soient un peu plus longues que celles de la deuxième rak'at. Et enfin, le fait d'écourter la position assise pour le teshahoud du milieu, qui ne sera plus long que celle pour le dernier teshahoud. Et pour se prosterner, il est conseillé de mettre d'abord les mains avant les genoux. Et pour se relever vers la position debout, il est préférable de lever d'abord les genoux avant les mains, si possible. Quant aux choses détestables pendant la prière, donc makrouhat, qui ne rendent pas la prière invalide, mais qui sont quand même des choses détestables, Ibn Ashir cite 16 makrouh, et qui sont. Donc réciter le ta'awud, a'oud billahi minash shaitanir rajim, donc pour lui il ne faut pas le faire. Ou la basmala, pareil, donc il ne faut pas la faire. Avant de commencer la fatiha ou la surah dans la prière obligatoire, on rentre directement dans la fatiha ou dans la surah. En effet, il y a divergence entre les savants pour considérer ou non la basmala comme un verset de chaque surah, ou uniquement un verset de la surah sunnah, le verset 30. Le troisième, donc réciter le Coran en position d'inclinaison est makruh aussi. Et réciter le Coran en position de prosternation est aussi makruh. Se prosterner sur l'habit est aussi makruh. Se prosterner sur le volume du turban s'il n'est pas très épais, sinon si cela est trop épais et ne permet pas au front de toucher la terre, il refera sa prière parce qu'il faut que le front touche la terre. Le sixième, donc, se prosterner sur les manches ou que les mains soient à l'intérieur des manches dans la prosternation, ça fait aussi partie des makruhs, des choses détestables. Le septième et le huitième, donc le fait de porter quelque chose dans sa bouche ou dans ses manches, il faut donc éviter cela pour garder la présence et la concentration dans la prière. Le neuvième, donc le fait de méditer, de penser aux choses de ce bas monde, à tout ce qui s'oppose à la bonne présence, à l'humilité dans la prière. Si on peut expliquer, on peut dire que si cela dure, mais qu'on reste conscient de ce qu'on fait dans la prière, c'est-à-dire qu'on maîtrise les actes de la prière, ce sera seulement détestable. En effet, parfois on ne peut pas chasser toutes les pensées, néanmoins il faut faire de son mieux pour faire le vide avant d'entrer dans la prière. Al-Abath, donc c'est ça le dixième macro. Al-Abath, ça veut dire le fait de se toucher, de s'agiter, d'agiter ses habits, sa montre, sa bague, sa barbe, donc ce qui montre une distraction et une absence d'humilité, le khushu est dans la prière. Donc ça c'est macro, c'est détestable. Se tourner, donc tourner la tête par exemple sans une nécessité, ça c'est le onzième. Le deuxième, donc les invocations dans la récitation en position debout après la surah ou la fatiha. Donc le dua, adna'a, surah, après surah ou après le fatiha. Les invocations dans la récitation, donc en position debout après la surah ou la fatiha, sont makruh, il ne faut pas le faire. Le dua, il faut le faire plutôt en position de sujoud, en position de prosternation, parce que c'est là où les vœux sont exaucés, les prières sont exaucées en position de sujoud, de prosternation. Et aussi, donc, pas d'invocation pendant l'inclinaison. Entrelacer les doigts. Le 13e, entrelacer les doigts, mise des doigts d'une main entre les doigts de l'autre main. Donc, tashbih al-asabi'. Le 14e, donc claquer, craquer les doigts, faqa al-asabi'. Le 15e, fermer les yeux, donc faut éviter de fermer les yeux. Le 16e, poser les mains sur les côtés ou la taille ou la hanche, donc ce qu'on appelle takhassur. Donc ce sont les 16 makruhat, les 16 stables de la prière. Voyons maintenant comment se fait donc la prière, la façon de faire la prière. Donc d'abord, il est sunna pour l'homme et mandoub pour la femme et l'enfant de commencer par réciter al-iqama avant de rentrer dans la prière obligatoire, avant chaque prière obligatoire, même s'il s'agit de son rattrapage. Donc il est mandoub de faire cette iqama. Sa formule, à réciter à voix basse pour l'homme s'il prie seul et secrètement dans tous les cas pour la femme. Donc Allahu Akbar, Allahu Akbar, donc Allahu Akbar deux fois. Ashhadu an la ilaha illallah, une fois. Ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah, une fois. Hayya ala salat, une fois. Hayya ala al-falah, une fois. Qad qamati salah, une fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar, donc Allahu Akbar deux fois. La ilaha illallah. Donc cette version est celle de la Mudawwana de Zahnoun. Donc je répète. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Donc tout d'abord l'intention, l'intention de la prière. En position debout, donc il lève les mains au niveau des épaules et en les baissant il dit Allahu Akbar, ce qui signifie Dieu plus grand et le plus grand, et ça s'appelle Takbirat Ihram. Donc c'est comme ça qu'on commence la sacralité. Rentre dans la sacralité, qu'on rentre dans la sacralité de la prière. La première raka, la récitation des versets du Coran se fait obligatoirement en arabe. Donc, dans la première raka, on récite toujours obligatoirement, dans chaque raka, quelle que soit la raka, on récite la Fatiha, toujours, c'est une obligation. La Fatiha, c'est la première sourate du Coran. Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Mali Malik Yawmiddin, ou Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta 'alayhim, ghayr al-maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Après la lecture de la Fatiha, on lit une sourate, une petite sourate, ou quelques versets, par exemple, Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et puis le fidèle s'incline en disant Allahu Akbar. Puis il dira trois fois Subhana Rabbi al-Azim. Puis il se relève en disant Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Puis il se prosterne, le front et le nez sur le sol, ainsi que les mains, les genoux et les pieds, en disant Allahu Akbar. Et il dira trois fois, il récitera trois fois Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la. Puis il s'assoit, faisant porter le poids de son corps sur son pied gauche et en redressant son pied droit à sa droite ou n'importe quelle autre position assise s'il ne peut pas faire cette position en disant Allahu Akbar assis. Assis donc il fait Allahu Akbar et il peut dire Rabbir Firli une, deux ou trois fois. Puis il se prosterne à nouveau en disant Allahu Akbar. Prosterné, il dira encore une fois comme dans la première prosternation Subhana Rabbi al-A'la. Et c'est comme ça que se termine la première raka'a. Donc là, il se relève. Donc après, il se relève en disant Allahu Akbar. Il se lève en disant Allahu Akbar. Et il fait la Fatiha, la Sourah, comme la première raka'a. Donc ça se déroule comme la première raka'a. Donc s'il s'agit d'une prière de deux raka'a, comme celle du Subh, où la Fatiha et la Sourah se font à voix haute pour l'homme, après le tashahhud final, donc après la dernière assise, donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait Assalamu alaykum à droite et Assalamu. Il s'agit d'une prière de deux rak'at. Par exemple, la prière du Subh. Elle contient deux rak'at, comme on les a décrites, qui se font à voix haute quant à la récitation de la Fatiha et la Sourah. Et simplement. Quand il va se relever de la dernière prosternation, il va s'asseoir et il va faire la première formule du tashahhud. Donc, au lieu de se lever, donc il va s'asseoir juste après la prosternation de la dernière, de la deuxième raka. Donc, le fidèle, il va s'asseoir une fois et dire Allahu Akbar. Et il récitera les formules de salutation. Donc je cite, At-tahiyyatu lillah, az-zakiyyatu lillah, wa-t-tayyibatu salawatu lillah, as-salamu alayka ayyuha al-nabiyyu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, as-salamu alayna wa al-ibadillahi s-salihin, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. C'est ce qu'on appelle le tashahhud du milieu. Donc si la prière est de dorakat comme celle du subh, il continue en récitant les prières d'Abraham, salawat ibrahimiyya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim, wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim, wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina, innaka hamidun majid. Donc, pour la prière de subh, il fera ça, et puis il se retourna à droite et fera assalamu alaikum. Il faut savoir aussi que la prière de subh, si on la fait en 100 ans, elle est précédée par une prière très recommandée, la riba, qui s'appelle le fajr, qui se fait en deux rak'at à voix basse. Par contre, si on rate la prière du subh et qu'on se lève le matin après le lever du soleil, il faudra commencer obligatoirement par rattraper le subh d'abord, donc les deux rak'at avec le salam, donc les deux rak'at avec la récitation à voix basse, puis le salam, avant de faire la sunna du fajr. La sunna du fajr est la seule prière surrogatoire qui peut être rattrapée jusqu'au zénith. La sunna du fajr se fait exactement comme le subh, sauf que on la fait à voix basse. À voix basse. Donc les récitations pendant cette prière se font à voix basse. La deuxième prière est celle du milieu de la journée, Dhuhr. Elle contient 4 rak'at, unités séparées pour la tashahhud du milieu, comme on l'a récité. C'est-à-dire, après avoir récité le tashahhud du milieu, on se lève, on ne fait pas salam, on se lève, puis on dit Allahu Akbar, et on continue en faisant 2 rak'at avec la fatiha seulement, sans la surah, à voix basse. Donc toute la prière de Dhuhr se fait à voix basse. Cette prière donc se fait au milieu de la journée, donc Dhuhr. Si vous voulez, effectivement, il y a plusieurs sites qui indiquent les horaires de la prière, comme le site de la Grande Mosquée de Paris. Et après, donc à la fin de la quatrième raka, après le tashahhud du milieu, on fait la salat al-ibrahimiyya et on fait le salam. Donc on dit en tournant la tête à droite, assalamu alaikum, à voix haute. On tourne la tête à gauche et on prononce la même formule. Si on prie seul, on s'arrêtera au salam à droite, sans faire donc le deuxième salam à gauche. La troisième prière est celle de l'Asr. Elle se fait dans l'après-midi exactement comme celle du Dhuhr. La quatrième prière est celle du Maghrib, coucher du soleil. On fait deux premières rak'at comme celle du Subh. La première prière à voix haute pour les récitations de la Fatiha et la Surah. Puis le tashahhud du milieu. Puis on remonte, on fait Allahu Akbar. Et on fait une dernière rak'at avec la Fatiha en lecture silencieuse, sans la Surah. Et on fait le tashahhud final et le salut final. Cela fait au total donc 3 rak'at séparés par le tashahhud du milieu. La cinquième et dernière prière est celle de Isha, de la nuit. Elle se compose de 4 rak'at. Elle se fait exactement comme la deuxième et la troisième prière, c'est-à-dire Dhuhr et Asr, sauf que dans les deux premières rak'at, la Fatiha et la Surah sont récitées à voix haute. Après cette prière, la dernière prière de la journée, donc la prière obligatoire de Isha, il est préférable de faire 2 rak'at à voix haute, comme Subh avec Fatiha et Surah à voix haute, ce qu'on appelle Shafa. Donc deux rak'at avec la récitation à voix haute, avec Fatiha et Surah à voix haute, le tashahhud final et le salut, ce qu'on appelle la prière du Shafa. Puis une prière unitaire, donc une rak'at avec Fatiha, Surah à voix haute, le tashahhud final et le salut, ce qu'on appelle la prière du witr. Donc le witr, il faut le savoir, est une sunna, tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'un grand mérite. Quelques points donc on peut citer. Pendant la prosternation, il faut que le front, le nez et les touchent le sol. Parmi les sunnas moins appuyés de la prière, il faut mentionner l'appel avant de commencer la prière, donc iqama. Le fait que pendant la prosternation, les paumes des mains soient en contact avec le sol, tout comme les extrémités des pieds, c'est-à-dire les orteils et les genoux. Pour les hommes, il est préférable de ne pas joindre les pieds pendant la prière en position debout et de ne pas coller le ventre contre les cuisses ni approcher les coudes aux genoux dans la position de prosternation. Pour la femme, en position de prosternation, elle doit rassembler ses membres en se recroquevillant. Ses cuisses doivent être proches du ventre et les bras proches du corps. Pour la position assise, dans la doctrine malikite aussi, il est préférable pendant la lecture du tashahhud de bouger l'index de la main droite, bien sûr, tout en tendant le pouce sous l'index. L'index doit aussi rester tendu et bougeant seul, et en maintenant les mains posées sur les cuisses près des genoux. Les mains sont posées à plat sur les cuisses, les doigts dirigés vers la qibla, proche des genoux. Lors du tashahhud, Seule la main droite est fermée, avec l'index et le pouce dressés, tendus, tournés de telle sorte que le pouce et le côté de l'index soient face à nous. Les trois derniers doigts de la main droite sont fermés. Comment s'asseoir? Il est écrit dans le mot ta, dans le chapitre Comment doit-on s'asseoir pendant la prière. Yahya Ibn Saïd a rapporté qu'Al-Qasim ibn Muhammad montra aux fidèles la façon de s'asseoir pour faire le tashahhud. Il dressa son pied droit, plia le gauche, s'assit sur sa hanche gauche et ne s'assoit pas sur son pied gauche. Puis il dit: Abdullah ibn Omar m'a montré cela en disant qu'il a vu son père faire de même. Selon Ibn Abi Zayd dans sa Risala, chapitre 10, dans la position assise, entre les deux prosternations, en dehors de celle pour le tashahhud, le fidèle s'assoira, repliera le pied gauche, sous la cuisse gauche, dans cette posture assise entre les deux prosternations. Il placera le pied droit en position verticale, la partie inférieure des orteils reposant sur le sol. Il relèvera les mains du sol pour les poser sur les genoux. Pour le tashahhud, cette fois, il placera le pied droit en position verticale, la partie inférieure des orteils reposant sur le sol. Il repliera le pied gauche et fera porter la fesse sur le sol en évitant de s'asseoir sur le pied gauche. S'il le veut, il inclinera le pied droit préalablement placé en position verticale et fera ainsi toucher terre aux côtés du gros orteil. En effet, ces dispositions n'ont aucun caractère strict, mais c'est de la demande ouverte. Il faut savoir aussi pour finir que le salam, salamu alaykum, une fois à droite, le fard obligatoire. Le fait de le dire à voix haute à droite est un mandoub, sunna muappuyé. Et le fait de répondre au salam de l'imam, c'est-à-dire faire le salam en face, et au salam de celui qui est à gauche, c'est-à-dire faire un salam à gauche, est également mandoub. Donc ça, c'est ce qui concerne donc la façon, le rite malikite. On va voir brièvement ce qui rend la prière invalide. Donc les cas où on doit obligatoirement refaire toute la prière, pas de réparation, donc mubtilat. Dans le cas où les ablutions ne sont plus valides, il faut refaire l'ablution et la prière. Si on se rappelle pendant la prière qu'on n'a pas nos ablutions, on s'arrête et on va faire les ablutions, même si on est imam. Dans ce cas, dans le cas où on est imam, les gens vont désigner un autre imam pour continuer la prière sans l'interrompre. Le rire avec une voix, al-qahqaha, annule la prière. Le sourire est toléré. Pleurer à voix haute si la cause est mondaine, par contre si la cause est divine, crainte de Dieu par exemple, la prière reste correcte. Vomir volontairement. La parole volontaire qui ne fait pas partie des invocations de la prière ou qui n'est pas pour la correction de la prière. A noter qu'une parole pour corriger la prière de l'imam par exemple ne rend pas la prière invalide. Souffler volontairement. Al-amal kathir, donc faire beaucoup de choses qui ne font pas partie de la prière comme le fait de se déplacer, marcher ou trop bouger. De telle sorte que celui qui nous observe croira qu'on n'est pas dans la prière. Sauf pour compléter un rang, ou à cause d'un saignement nasal, ou pour tuer un scorpion, ou une vipère, ou un serpent. Dans ces cas, on peut les tuer avec quelque chose sans interrompre la prière. Je cite que pour compléter un rang, on peut aller même jusqu'à deux rangs. Donc, pour compléter les rangs contenus derrière un imam. Donc, c'est toléré, ce n'est pas parmi les choses qui invalident la prière. Quand on ajoute volontairement dans la prière une inclinaison ou une prosternation sujoud qui n'est pas de la prière. Donc il s'agit ici de l'ajout volontaire et conscient d'un pilier non oral, rukn fi'li de la prière. Quant à l'ajout de piliers oraux de la prière, arkan qawliya comme la fatiha, il ne rend pas la prière invalide. Le fait de relire la fatiha par exemple, même volontairement, ne rend pas la prière invalide car elle est considérée comme une invocation. Exception faite de la prosternation suite à la lecture d'un verset nécessitant une prosternation, donc ce qu'on appelle sujoud tilawa. La perte de conscience, pour la prière invalide, le fait de manger ou boire volontairement, par contre si cela est involontaire, par oubli par exemple, et si c'est que peu de choses, il faut réparer la prière par ce qu'on appelle le sujoud al-ba'di, donc les réparations, la réparation, les prosternations réparatrices après le salam. Si on oublie trois sunnas au plus, trois sunnas comme on a vu, hein, les sunan de la prière. Et on ne fait pas de réparation par le sujet d'Al-Qabli ou le sujet d'Al-Ba'di qui remplacera le sujet d'Al-Qabli. La prière est invalide, il faut la refaire. Si la personne fait le sujet d'Al-Qabli pour l'oubli d'un mustahab ou d'une sunna légère ou d'un mandoub dans la prière, comme lorsqu'il oublie une takbira en dehors de celle initiale, ou le Rabbana lakal hamd, ou qu'il oublie les invocations al-qunut et qu'il fasse quand même un sujoud qabli, c'est-à-dire les deux prosternations réparatrices avant le salam, dans ce cas, sa prière est à refaire. Donc, il faut savoir que pas de sujoud qabli pour l'oubli d'un mustahab ou d'une sunna légère ou d'un mandoub dans la prière. Comme on va voir dans le chapitre du sujoud as-sahou, donc des prosternations réparatrices. Donc le sujoud al-qabli n'est fait que pour l'oubli de trois sunnas ou plus ou d'une sunna appuyée comme précisé dans le chapitre du sujoud as-sahou. Le fait d'ajouter, même involontairement, le même nombre de rak'at d'unités que celles qui composent la prière, en plus de la prière. Exemple, la personne qui, par inattention, prie 4 rak'at pour le sobh au lieu de 2. Celui-là est tenu de refaire son sobh. La réparation dans ce cas-là n'est pas suffisante. C'est ce qu'on appelle sahou zayd al-mithli. Il ne faut pas faire la prière alors qu'on repousse, qu'on se retient de l'urine, des fesses, du vent. Il faudra se soulager correctement avant, puis faire les ablutions et la prière. Ceci permet d'être présent dans la prière.